Je souhaite à tous la bienvenue et nous sommes là en ce moment pour ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans une série d'études dans l'Épître aux Romains. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et nous allons lire les 11 premiers versets. Romains chapitre 8. Dimanche dernier, nous avons surtout développé la marche selon la chair, hein, parce qu'il nous parle, et vous le verrez, qu'il nous parle du fait de marcher, de vivre selon la chair. Et aujourd'hui, nous voulons surtout commencer à présenter et voir plus en détail la vie selon l'esprit. Et c'est un domaine de théologie qui est souvent mal compris, mal présenté peut-être même, et donc nous voulons développer cela pour que nous aider dans notre marche quotidienne. Paul trouve ça tout à fait normal, hein, au verset 9 il dit c'est pour vous, ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus normal et c'est ce que nous voulons aussi, et que ce soit normal pour nous, que ce ne soit pas l'exception, hein, mais que ce soit comme l'intitulé du livre de Watchman Nee, La vie chrétienne normale. Hein. Vous êtes prêts donc au chapitre 8, Romains chapitre 8 et verset 1, je lis. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui, marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que des bonnes choses. L'apôtre a déjà souligné dans ce passage la différence entre vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Hein, je remets les choses en contexte. Ici, ce chapitre concerne les enfants de Dieu. Hein, donc, depuis le chapitre 4, où il nous a parlé de la justification par la foi, et là, il nous parle des chrétiens. Hein, donc, ici, quand il parle de marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit, ce sont des possibilités que le chrétien peut avoir. Et c'est pour ça qu'on est souvent déçu par certains chrétiens, parce qu'ils vivent selon la chair. Et quand on vit selon la chair, ça ressemble complètement aux inconvertis. Et parfois, c'est pire. Hein? Et donc, il y a vivre selon l'esprit. Donc, c'est le problème, c'est le chrétien, parce que, comme on a dit l'autre jour, hein, c'est le salut, on le reçoit gratuitement. Hein? Et quand je reçois le salut, eh bien, je reçois le pardon des péchés, et je reçois la vie éternelle, et je reçois le Saint-Esprit. Ça, c'est C'est gratuit pour celui qui le demande par la foi. Mais la vie chrétienne, ça, c'est chacun. Hein. C'est chacun est responsable pour la manière dont il vit cela. Hein. C'est comme votre naissance, vous n'avez rien fait pour naître. Mais une fois que vous êtes né, alors là, la vie est à vous. Hein. Hein, il faut déjà commencer à respirer tout seul, il faut commencer à se nourrir tout seul, et c'est y a rien de naturel. Hein, on commence à vivre. C'est pareil à la vie spirituelle. La naissance, elle est gratuite, tout est fait, tout est bon, tu reçois un petit corps, un petit potentiel là qu'il faut développer. Et maintenant, la vie c'est à toi. Je ne vais pas pousser l'exemple trop loin, hein, parce que tous, on n'est pas tous, même si la loi nous dit qu'on est tous égaux, mais en fait on n'est pas égaux. Mais ça, c'est autre chose, hein. Mais ici, il nous parle justement hein, de ces deux options qui sont là, ouvertes aux chrétiens. Hein, vous avez vu au verset 5, il nous dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Ça, c'est, voilà, celui qui vit selon la chair, il est attiré par les choses qui plaisent à la chair et les convoitises. Et tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, donc ils ont un autre intérêt, les yeux sont tournés dans une autre direction. Il nous dit au verset 6 et 7, il nous dit l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est deux choses différentes, hein, complètement différentes. Et il dit même au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc c'est vraiment contraire. Hein, on ne peut pas dire à Dieu « je t'aime » et en même temps vivre selon les passions naturelles. Verset 8, il nous dit « ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu hein, ». Ils ne pourraient pas, ils ne peuvent pas. Hein, tout comme le pécheur. Hein, il ne peut pas, il ne sait pas, tout ce qu'il fait, puisqu'il est dans la désobéissance, peu importe ce qu'il fait, ça déplaît. Hein. C'est comme papa qui part et il me dit, en tant que fils, il me dit, écoute, tu nettoies la chambre. Tu nettoieras ta chambre pour ce soir quand je rentre. Et puis moi, je décide d'aller nettoyer le garage. Et je nettoie le garage. Et quand il rentre, il dit, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit. Donc c'est mal. Pourtant, et nettoyer le garage et nettoyer la chambre, ce sont des bonnes choses. Mais c'est une désobéissance. Hein, donc c'est ça, c'est celui qui ne vit pas pour Dieu, il déplaît. Hein. Et c'est important, c'est pas nous qui prenons les lois humaines, on les applique à Dieu, on essaie de décider. Non, non, c'est à nous de nous ajuster aux lois célestes. Hein. C'est comme si vous émigrez vers un autre pays, et ben vous pouvez dire, ben moi en France on fait comme ça. Il dit, ben ici c'est pas la France, monsieur, alors les lois sont autres. Eh bien, quand on commence à vivre pour Dieu, on est citoyen d'un autre pays, on vit selon d'autres règles. Hein. Donc, il nous dit rapidement, si je comprends bien, il dit « Ceux donc qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et cette affection produit la vie et la paix. Hein, » Le fruit de cette recherche de la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, eh bien, ce qui en découle, c'est la vie, parce que c'est hein, quand on fait ce pour quoi on a été créé, eh bien, ça fonctionne bien. Hein. Si vous prenez... vous allez à Monaco, vous voyez ces belles voitures qui circulent, elles sont des belles voitures, mais si vous vous en servez pour tirer une charrue, ça ne va pas marcher. Parce que ça ne convient pas. Vous allez détruire la voiture. Eh bien, nous avons été créés pour adorer Dieu, pour vivre pour Dieu. Et quand on s'en sert pour autre chose, eh bien, on a des problèmes. Et la société se demande pourquoi on a des problèmes. Et puis après, on regarde Dieu, on dit, Dieu, si tu existes, pourquoi il y a... Il dit, mais tu... Oui. Vous prenez la Lamborghini pour tirer une charrue. Ben, ça, c'est pas garanti. Hein. Vous allez avoir des problèmes. C'est quoi une Lamborghinica en fait? J'ai entendu ce mot là quelque part. Voilà. Mais voilà. C'est juste pour vérifier que vous êtes bien réveillés. Vous savez, nous parlons du fait des enfants de Dieu. Et là, dans Romains verset 9, on y dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est-à-dire, si je n'ai jamais reçu Jésus-Christ, je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, et donc c'est un autre problème. Mais si j'ai l'Esprit de Dieu, alors il dit, « Pour vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous, alors la chose la plus normale, c'est de vivre selon l'Esprit. Hein, ce sera naturel et ce sera, comme on dit, c'est bon pour la santé spirituelle. Il n'est pas possible de vivre, hein, je l'ai dit dimanche dernier aussi, pas possible de vivre et selon la chair, et de vivre selon l'Esprit, les deux en même temps, c'est pas possible. Hein. Quelqu'un va dire, ben moi, c'est ni chaud ni froid, c'est un peu, hein, vous savez, dans l'Apocalypse, il a dit, les tièdes, le Seigneur va les vomir. Il dit, vous savez, et c'est normal, les chrétiens, vraiment, qui vivent selon le Seigneur, même les gens qui ne croient pas comme eux, il dit, mais c'est quand même des gens qui sont pas mal. Mais vous prenez des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme n'importe quel autre, eh bien les gens, ils disent, c'est pas la peine de croire en Dieu, hein, si c'est pas être comme ça. Et ça, c'est un déshonneur pour Dieu. Et ceux qui sont mis ceci, cela, dimanche à l'église, et en semaine, c'est autre chose, eh bien les gens, ils disent pas du bien. Hein. Ils disent, bah, l'église est remplie d'hypocrites. Eh bien, écoute, ne rentre pas dans cette église-là parce que ça fera un de plus. Vous savez, l'église, c'est pour des pécheurs. Mais les pécheurs qui le reconnaissent, c'est tout. Ce n'est pas des gens qui sont meilleurs que les autres, c'est des gens qui reconnaissent leurs besoins. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5, 18. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. On ne peut pas faire les deux. Hein, c'est une vie ou l'autre. Donc, et vivre selon l'esprit, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein. Je ne sais pas qui a inventé cette théologie-là. Mais vivre selon l'esprit, c'est pas être parfait. Parce que l'apôtre Paul, lui, à la fin de sa vie, il a dit, mais je me bats encore. Hein? Et moi, je suis à ses talons, hein, du point de vue vie spirituelle. Et lui, il dit, non, je ne suis pas encore à la perfection. Mais ce que cela veut dire, vivre selon l'esprit, ça veut dire que je vis sous la direction de l'esprit et par la foi en la parole de Dieu. C'est lui qui me conduit. Hein? Je trébuche encore. Je tiens la main de papa parce que je peux trébucher, je peux. Hein, mais tant que c'est plat, ça va, mais dès qu'il y a c'est rocailleux, on prend la main de papa. Eh bien, oui, on l'admet. Mais c'est le fait que je marche avec papa. Je marche avec le Père Céleste. Et j'écoute ses paroles. C'est ça qui est la marche vers l'esprit. Bien sûr, être conduit par l'esprit. Ça implique être élevé au-dessus de ce qui est charnel et être préoccupé par ce qui est de Jésus. Conduit par l'Esprit, vous souvenez, Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, il a dit « Je vous enverrai un consolateur, celui qui se tiendra près de vous », c'est ça que ça veut dire, « et il vous conduira dans la vérité ». Donc, conduit par l'Esprit, c'est être conduit dans la vérité. Et la vérité, ta parole est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est ça, hein, marcher selon l'Esprit, c'est pas parce que je suis complet, c'est parce que je marche un chemin qui est la vérité et j'ai les yeux fixés sur Jésus-Christ. Hein? Hébreux 12, 1, il dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Hein, c'est, vous savez, là où on fixe les yeux, ça déterminera notre marche. Celui qui regarde tout le temps à ses pieds, il va se perdre. Mais celui qui a un but, qui est fixe devant lui, et puis qui le fixe, il arrivera. Et vous savez, celui qui marche selon l'esprit ne se borne pas à écouter la parole. Il dit, moi, tous les dimanches, j'écoute, et puis même en plus, même pendant la semaine, j'allume, je vais sur le site de l'église et j'écoute une prédication. Eh bien, vous savez, il y a un verset dans la Bible, en Jacques chapitre 1, verset 22, qui dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire, j'écoute, et puis après, j'en fais ce que je veux, j'interprète à ma manière. Il dit, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Hein? Lire la parole de Dieu, c'est pas, je lis le texte, et puis bon, j'ai lu un chapitre, hein, comme ça, le pasteur, il me demande si j'ai lu, je vais dire que j'ai lu. Et qu'est-ce que tu as retenu? Je sais même plus où c'était. Non, il dit, prends le temps de méditer. Hein? Nous devons méditer cette parole. Et c'est pas seulement lire l'histoire, ou le récit, mais tirer un enseignement de ce qui est écrit. Hein, c'est ce que nous faisons les jeudis soirs beaucoup. Donc c'est ça, vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est être convaincu de la véracité de la parole. Hein, je suis convaincu que la Bible, c'est la vérité. Parce que si je ne suis pas convaincu, c'est difficile de le suivre. Hein, parce que je suis constamment en train de me demander, oui c'est ça ou c'est pas ça. C'est comme si vous aviez une carte et vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne carte. Eh bien, c'est difficile. Vous avez un GPS qui, une fois sur deux, il fonctionne. Des fois, c'est par là, une fois, c'est par là. Et bien, vous dites, non, je ne peux pas. Vous n'avancez pas aussi vite. Il faut vraiment affirmer l'enseignement de la Bible jusqu'à ce que ça devienne une conviction. C'est-à-dire, je l'étudie, j'étudie, j'ai bien compris. Ça, d'accord, j'ai compris. Maintenant, je le mets en pratique. Hein, c'est ça, il faut lire, et si je ne comprends pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je relis, j'étudie, je pose des questions, je vais chercher, jusqu'à ce que je suis convaincu que c'est ça. Et après, là, je peux le mettre en pratique. Hein. Tant que j'ai un peu de doute, eh bien, je ne vais pas pouvoir avancer. Et quand ça devient une conviction, après, là, je peux fonder ma vie. Mes passions, mon avenir, ça détermine le tout. Par exemple, je prends un exemple. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous aime, hein, oui, bien sûr, vous savez, Dieu est amour, vous l'avez entendu, on dit Dieu vous aime, oui, et puis on l'envoie sur un texto, Dieu t'aime, et puis tout ça. Mais est-ce que toi, tu es convaincu que Dieu t'aime? C'est-à-dire au point que, quelles que soient les circonstances, et même si tout va de travers, mais je sais que Dieu m'aime. C'est ça, hein, c'est ça être convaincu. Parce que là, je garde mon or. Hein. Là, je ne perds pas la boussole, là. Ça va. Si je suis convaincu que Dieu m'aime. Vous savez, c'est comme un enfant qui grandit, et il a un peu cette conviction que ses parents ne l'aiment pas. On n'a jamais voulu que tu naisses. Tu n'es pas vraiment mon fils en tous les cas. Ou des choses comme ça, vous savez, vous détruisez une personne pour la vie. Et lui, il ne peut pas s'épanouir. On ne m'aime pas. Pourquoi je vais faire un effort? On ne va même pas me dire merci, on ne va pas être content, ça ne va pas faire plaisir. J'ai rencontré des gens qui se sont épuisés pendant toute leur enfance d'essayer de gagner l'affection d'un parent. Et ils ne l'ont jamais eu. Mais ça les perturbe pour la vie. Hein. Et heureusement qu'on peut leur dire, mais Dieu t'aime. Hein. Et tu n'as pas besoin de faire des choses pour gagner son amour, il t'aime déjà. Et on a besoin d'avoir cette conviction hein, que Dieu aime. Et là, peu importe ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que Dieu m'aime. Et s'il m'aime, il veut mon bien. Et vous savez, on peut traverser des tempêtes terribles. Même à la fin du chapitre 8, vous connaissez les derniers versets du chapitre 8, là. Je les relis. À partir du verset 37 jusqu'à 39, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pourquoi plus que vainqueurs ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni l'échange, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Il dit, je suis convaincu que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit donc que je peux être plus que vainqueur. Vous savez, c'est important. Et si vous avez le moindre doute, eh bien, faites des recherches. Et puis je me tiens à votre disposition pour vous aider dans cette recherche. Mais il faut arriver à cette conviction. C'est l'amour de Dieu. Ce qui est le plus simple. Il n'y a pas besoin de connaître ni le grec ni l'hébreu pour comprendre ça. Dieu m'aime. Il m'a aimé avant que je l'aime. Il m'a aimé quand j'étais ce que j'étais. Maintenant, il va m'aimer. Il ne m'a pas aimé parce que j'étais parfait, il m'a aimé parce qu'il est amour. C'est tout autre chose, ça. Hein? Vous devez réaffirmer la vérité de l'amour de Dieu pour vous, tous les jours de la vie. Et si vous êtes vraiment convaincu, eh bien cela transformera votre vie. Vous virez votre vie chrétienne autrement. Ça, c'est rien que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, après, vous voyez dans l'amour de Dieu, c'est pas, si vous voyez la croix, bien sûr, parce que ça, c'est le symbole et l'expression. Hein, il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Il y a déjà ça. Et ensuite, le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Le premier mot, c'est l'amour. Vous savez, et ça influe partout, ça rentre partout. Et ça me permet de respirer, pas un air pollué, mais quelque chose qui est vraiment qui convient à l'esprit de l'homme. Vous connaissez cette exhortation qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Que la parole demeure. Demeurer, vous savez ce que ça veut dire ? Hein ? C'est établir résidence. C'est-à-dire, ça, c'est l'adresse, c'est le domicile. Il dit que la parole puisse établir résidence dans vos cœurs. La vie spirituelle est une vie de foi, une foi basée sur la parole qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, il dit « Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est pas seulement qu'il m'a dit qu'il m'aime, mais il s'est livré lui-même pour moi. Là, je le crois. Ensuite, il nous dit « Ainsi donc ». En Colossiens 2, versets 6 à 7, il nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui. » Vous l'avez reçu par la foi ? Eh bien, marchez en lui par la foi. « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Qu'est-ce qu'il va ? Il dit, vous allez hein, comme on l'a chanté au début, compte les bienfaits de Dieu. Hein, c'est, dites, ah oui, quand j'y pense. Quand je m'arrête et je prends le temps d'y penser, Dieu a quand même fait des choses extraordinaires. Il y a ces bénédictions générales, Hein, tout à l'heure, une sœur, elle a remercié Dieu pour le soleil. Ici, dans le sud, on ne remercie plus Dieu pour le soleil. On en a tellement. Mais quand on vient de Paris, on a envie de remercier Dieu pour du soleil. Mais il y a des choses qui donnent à tout le monde. Les bons et les mauvais. Le soleil brille sur les bons et les mauvais. La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Ça, c'est des bénédictions générales. Et après, il y a des bénédictions qui sont réservées pour ses enfants, pour ceux qui le suivent. Et sans parler seulement de l'éternité, mais déjà pour la vie de tous les jours. L'apôtre Paul parle aux Galates et dit « Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair ?» Il dit « Peut pas, si vous avez commencé à aimer le Seigneur, à vivre pour lui, eh bien, ne retournez pas à ce que vous étiez. Il n'y a que les chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. » Vous savez, il y en a qui auraient voulu que les choses fassent autrement. Il dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas enlevé la nature pécheresse ? Comme ça, il nous l'enlève. Puis comme ça, on n'a pas ce problème. » Eh bien, lui, dans sa sagesse, et il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais il a dit « Au lieu de vous enlever la nature pécheresse, je vous donne mon Saint-Esprit qui demeure en vous. Et je dois croire, puisque Dieu est sage, je dois croire que c'est mieux pour moi. Parce que Dieu est plus glorifié par un pécheur qui vit pour Dieu que pour 10 000 anges qui n'ont jamais connu le péché. » Il dit « Non ? Je préfère voir un gars qui se bat, c'est pas parfait, mais il y a une œuvre qui se fait. Pourtant, il est en train de... Il marche dans la boue, mais il arrive à marcher quand même. Et il continue. Il dit, celui-là, il m'apporte ta gloire. Hein? Il y a plus à honorer celui-là qui fait des efforts pour avancer que celui qui il vole par-dessus les problèmes et les sent jamais. Bon, parfois on pose des questions, comme les enfants posent des questions. Pourquoi on est obligé de dormir tant C'est dommage qu'on soit obligé de dormir. Mais bon, après, ça c'est pas toi qui as décidé. Hein. Mais sache que c'est bon pour toi. Vous savez, ce monde. Depuis notre naissance, il y a notre culture, il y a l'école, il y a les formations, il y a nos amis, il y a tout ça. Et tout ça nous a formatés par défaut. Ils ont installé un logiciel qui est là et qui naturellement, quand je fais ce qui est naturel, je suis ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est l'installation par défaut. Et donc, si je ne fais rien, et si je ne personnalise pas le programme pour que, au lieu de faire ce qui est par défaut, je fasse ce que Dieu me demande de faire, eh bien, je vais avoir un programme qui va m'emmener dans le même sens que tous les autres. Nous avons naturellement un programme par défaut, on a grandi avec ça, c'est le monde dans lequel on a été élevé. Mais il dit, le Saint-Esprit vient à nous, il dit, écoute, laisse-moi, on va revoir ce logiciel-là, puis on va cocher ça, puis on va enlever celui-là, on va tout personnaliser pour pouvoir vivre pour le Seigneur. Et c'est ce que je fais chaque jour, au fur et à mesure que je lis la Bible, au fur et à mesure que des choses apparaissent dans ma vie, je vois, tiens, ça c'est pas bien. Mais il dit, alors coche. Tu enlèves ça, puis on coche celui-là, cette option-là. Et c'est ça, et c'est comme ça que nous progressons. Et ça devient, cette vie avec le Seigneur devient de plus en plus naturelle parce qu'on a fait des changements dans le programme qui est par défaut. Hein, vous savez, grâce à la nouvelle naissance, je possède le Saint-Esprit. Hein? Il a dit, je vous le donne. Par la nouvelle naissance, je possède le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à moi d'être possédé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est tout autre chose. C'est une chose de le posséder, c'est autre chose d'être possédé par lui. Vous comprenez très facilement quand on dit « il possède de l'argent » ou « il est possédé par l'argent », ça change tout. On voit les choses autrement et on traite les gens différemment. Mais c'est encore plus vrai avec le Saint-Esprit. Donc un enfant de Dieu qui dit ben moi alléluia j'ai reçu Dieu, le Seigneur m'a pardonné, j'ai le Saint-Esprit, j'aime la Bible et puis voilà je suis content tout ça, et bien celui-là il va jusqu'à un certain point mais il peut pas aller plus loin. Tandis que quand je commence à laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en moi. Je dis, écoute, rentre dans la maison, puisque notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien, il dit, écoute, rentre là-dedans, puis tu as accès à toutes les chambres, tous les placards, tu peux aller au grenier, tu peux aller au sous-sol, tu peux aller où tu veux, c'est chez toi. Quand on lui dit ça, ben, vous savez, il va faire du ménage. Hein. J'ai déjà rencontré des gens que... ils étaient mariés, ils avaient une épouse, et puis l'épouse est décédée, et après il s'est remarié avec une autre. Et bien quand elle arrive dans la maison, vous savez ce qu'elle fait? Elle personnalise la maison. Hein, c'est chez elle maintenant. Et bien le Saint-Esprit aussi, hein, quand il vient dans notre vie, il personnalise la maison. Et je vis pour un autre maître. Un qui cherche mon bien. Donc une autre expression d'être possédé par l'Esprit, c'est d'être rempli par l'Esprit. Hein. Même dimanche dernier, on a dit, en Éphésiens 5:18, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est-à-dire contrôlé. Hein. Donc, quand je suis rempli de l'Esprit, eh bien, je n'accomplis plus les désirs de la chair, comme je le faisais. Hein. Il faut qu'il y ait dans notre vie, il faut qu'il y ait un before et un after, hein. Un avant et un après. Sinon, on se demande s'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, quand je vois un chrétien, il me dit « je suis chrétien, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été baptisé », il me dit tas de choses, mais je le vois qu'il vit comme s'il n'avait jamais connu. Il dit, écoute, excuse-moi, mais moi, je vais te traiter comme un inconverti, puisque tu te comportes comme lui. Ben, je te traite comme un inconverti, c'est tout. Moi, je vais te parler du Jésus qui est mort sur la croix. Il dit, ouais, mais je connais déjà. Ah oui, mais je ne vois pas les effets. Hein. Parce que si l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie, il va y avoir des changements. Hein. C'est comme... Vous voyez une maison, vous dites, là, ça se voit qu'il y a une femme dans cette maison. C'est vrai, elle laisse ses traces. Ben, que l'esprit vit dans la maison, il va laisser des traces aussi, qui lui ressemblent. Si quand nous sommes remplis d'esprit, nous pourrons glorifier Dieu dans notre corps. Parce que ce que je fais, eh bien tourne l'attention vers Dieu. Me dire, oh, ben, là, ça, c'est pas normal, là, moi je le connaissais bien avant. Pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Et il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben écoute, j'ai mis les choses en règle avec Dieu. Wow, n'importe quoi. Non mais voilà, qu'il le croit ou pas, mais au moins il a constaté qu'il y a un changement. Donc quand nous sommes remplis d'esprit, nous devons une démonstration de l'œuvre de grâce de Dieu. Hein? Après il dit, ouais, il y a des changements là, écoute celui-là, je sais qu'il ne l'aurait jamais fait. Et je peux, dans mes 40 et quelques années de ministère, eh bien, j'en ai vu des gens où le changement, c'était radical. Hein, des gens qui m'ont vu, et ils m'ont parlé, ils m'ont dit, celui-là, je le connaissais avant. Eh bien, on ne le reconnaît plus. Et moi, je dis, merci Seigneur. Hein, c'est ça, hein. Parce qu'il dit, moi, celui-là, moi, je pensais que c'était raté pour de bon. Je connais un frère, il était Bon, il y a des gens de Saint-Denis là, mais il était un jeune et ça allait mal. Le père m'en a parlé. Il dit ça va mal. Et puis il est venu au Seigneur. Et là, il a commencé à avoir d'autres valeurs. Et là, maintenant, il a une petite famille chrétienne, des enfants. Je ne vais pas donner trop de détails parce qu'après, on va le connaître. Mais c'est un gars qui. Il a eu 17 de moyenne au bac. Il a dit je redouble parce que je veux mieux que ça. Et il a été plus loin. Et il est sorti samedi. Hein. Déjà, c'est un miracle. Mais, vous savez, Dieu change la vie. Hein, c'est autre chose. C'est pas juste comme on disait les Américains, c'est pie in the sky, hein, c'est la tarte dans le ciel. Non, non, c'est pour tout de suite. Ça change la vie tout de suite. L'apôtre Paul, vous savez, hein, ceux qui n'auraient pas voulu le rencontrer avant son expérience avec le Seigneur, étaient contents de l'entendre après. C'était un changement total. Et en plus, vous savez, tout à l'heure, il a dit les affections de la chair, ça donne la mort. Et bien maintenant, l'enfant de Dieu, puisqu'il ne court pas après les affections de la chair, mais ceux de la vie, et bien alors, il y a quelque chose qui s'épanouit. Et on a l'impression d'une fleur qui s'ouvre et ça change tout. Et puis en plus, dans ce dernier verset qu'on a lu, hein, dans le verset 11, il nous dit « Celui, le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, il vous ressuscitera aussi. Hein? » S'il a pu le faire pour Jésus, il peut le faire pour vous. Et ça, c'est la vie nouvelle, mais la vie nouvelle, elle apparaît dès maintenant. Hein? Ce n'est pas juste la résurrection après la mort, mais c'est maintenant que la vie nous, éternelle, commence à vivre. Hein? Il dit, le verset qui a été cité tout à l'heure, hein, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit maintenant en lui ait la vie éternelle. » Pas « aura », il l'a maintenant, il la vit maintenant. Vous savez, être sauvé, hein, comme on dit, être sauvé de ses péchés, c'est une erreur qui a été faite dans le milieu évangélique. C'est qu'on a parlé tellement d'être sauvé, être sauvé, être sauvé, puis on a dit Alléluia, c'est bon, et on passe à l'autre. Mais être sauvé n'est pas l'aboutissement de l'œuvre de Christ en nous et pour nous. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8, 9 et 10, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, alléluia, par le moyen de la foi, donc c'est le fait que j'ai fait confiance à ce que Dieu m'a promis, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, donc c'est pas quelque chose à cause de vos bonnes œuvres parce que vous êtes gentil, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu, il connaissait déjà notre nature, hein, il dit, pour rien du tout, on se croit meilleur qu'un autre. Hein, donc on souffre beaucoup de ça dans le monde. Mais il dit, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc il a dit, il vous a sauvés en vue d'eux, en vue de vivre une certaine vie pour lui sur terre. Il a dit, moi je ne peux pas être là, parce que moi, dans l'intérêt de tous ceux qui croient, j'ai besoin d'être à la droite du Père. Mais vous êtes là sur terre, vous me représentez, c'est important que vous viviez comme j'ai vécu. En tous les cas, que ça ressemble beaucoup. Et le mot pratiquer, hein, c'est, quand il dit là, il dit pratiquer, le mot pratiquer, en fait, dans le mot grec, c'est marcher. Hein, c'est le même mot qu'on trouve dans le verset un peu plus loin, dans le chapitre 4, verset 1, qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc c'est une marche, il n'y a pas de... La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de stagnant ou quelque chose que je mets dans un placard et puis je le garde pour un mauvais jour. Non, non, c'est une marche quotidienne. Et quelqu'un qui vit pour le Seigneur, il va être respecté même par les incroyants. Ils en voient tellement de tordus, et même des chrétiens tordus, que quand ils en voient un vrai, ils disent « Ah, là, si jamais je deviens croyant, je vais être comme lui. » Eh bien, c'est un compliment, mais ça donne gloire à Dieu. Hein? C'est tout ce que Dieu demande. Dans le côté pratique, vous savez, bon, tout ça se dit, ouais, Steve, je ne sais pas, hein, tu demandes beaucoup. D'abord, ce n'est pas moi qui le demande, hein, je ne fais que lire la Bible. Mais il peut y avoir des obstacles. Des obstacles qu'on rencontre souvent, là. Tu sais, vous savez, la vie chrétienne, hein, c'est rocailleux, parfois c'est difficile, parfois il y a des haies qu'il faut traverser, il y a des chicanes qu'il faut contourner, il y a toutes sortes de choses, hein, dans la vie chrétienne. Et déjà, je vous ai dit, vous avez compris, c'est que, bon, déjà, même si je marche selon l'esprit, c'est-à-dire que je ne néglige pas la méditation de la Bible. Hein. Rappelez dans Psaume chapitre 1, verset 2, il dit « Et qu'il la médite jour et nuit ». Hein? Donc, c'est pas seulement j'en porte une Bible, j'en ai une sur le chevet, mais je la lis. Hein? Je médite la parole de Dieu, et puis la prière. Et pour certains, la prière, c'est la liste, la commande que j'envoie, hein, comme j'envoie chez Amazon, hein, la liste que j'envoie vers le Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, et rentre là. Et puis, merci, amen. Non, la prière que le Seigneur veut, c'est celle où je m'ouvre à lui pour qu'il agisse en moi, hein, qu'il me guide. Il dit, c'est toi qui parles tout le temps et moi, tu ne m'écoutes pas. Hein, donc déjà ça, c'est essentiel, c'est basique, je n'ai pas besoin de le souligner, même si je le fais. Hein, Pierre, il a dit, il y a des choses, je ne me lasse pas de les répéter. Hein, c'est basique, comme dit ma fille, basique de chez basique. Hein, et pourtant. Mais il y a aussi, parfois, si je cesse de me dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Hein, dans Éphésiens chapitre 5, il nous dit de nous dépouiller de l'homme ancien, du vieil homme, donc la nature pécheresse, il dit dépouiller, hein, dépouiller, et de revêtir l'homme nouveau que Christ me donne. Donc, vous savez, moi, je ne suis pas très foot. Et vous savez, il y a ces joueurs-là on les passe d'une équipe à l'autre. Mais quand ils passent d'une équipe à l'autre, il faut qu'ils changent de tenue. Hein. Ils ne peuvent pas dire « Oh, moi, j'aimais bien les couleurs de l'autre. » Ah ouais, non, mais ça crée de la confusion. Tu ne peux pas. Ou si je prends l'exemple des militaires, tu ne peux pas avoir... La moitié de ta tenue, ça appartient à celui que tu combats. Et puis, il y a une autre moitié de la tenue, ça appartient... On dit, mais tu crées de la confusion. Tu es où, toi? Tu es avec qui? Mais ce n'est pas un chrétien qui, un peu, la chair, un peu... Hein, c'est un gars qui il a la moitié de la tenue, c'est de chez l'un, et l'autre moitié de tenue, c'est de chez l'autre. Hein, c'est pas possible. Donc, il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Sinon, ma vie, selon le Seigneur, sera compromise. Il dit, écoute, si tu n'es pas complètement de chez moi, tu n'es pas de chez moi. Bien, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est l'absence de pardon. Et puis des racines d'amertume qui se développent dans nos cœurs. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent nous freiner dans notre marche avec le Seigneur. Et dit, écoute, ne cherche pas à aller plus loin, arrête et règle ça. Et le pardon, c'est le pardon, quand je pardonne, c'est moi qui pardonne. Hein? C'est ce que l'autre en fait, et que ça, il change sa vie ou change pas sa vie, c'est son problème. C'est ça que Dieu a fait avec nous, hein. Il a dit, moi, Christ est mort, je vous offre le pardon. Vous le voulez, c'est très bien, vous ne voulez pas, c'est pareil. Lui, l'offre. Et le pardon est là. Et dès qu'on se présente à Dieu, on dit, écoute, j'aimerais bien que tu me pardonnes. Ben, il dit, vas-y, t'es pardonné. Et c'est instantané. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait. Eh bien, c'est ça, en tant que chrétien, c'est pareil. Écoute, moi, le gars, il mérite toujours. Eh bien, continue à pardonner. Eh oui, mais bon, il n'apprend rien. Ah, ben, ça, c'est autre chose. Mais toi, tu dois pardonner. Lui, il est responsable pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais toi, tu es responsable pour ta manière de réagir. Parce que si son comportement influe et change ta manière d'agir, alors c'est lui qui t'influence. Tu es sous son influence, pas celle de Dieu. C'est pour dire, Paul disait, je suis ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes, moi je suis ce que je suis. Et on peut continuer. Et donc, la vie selon l'Esprit, c'est une résolution que je confirme. C'est un combat soutenu et c'est une détermination de persévérer en s'appuyant sur l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça que je lui demande de m'aider, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Mais en lui, hein, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là, je peux vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, ça ne veut pas dire c'est parfait, ça veut dire que je le recherche, je tends vers cela, je le recherche. Et ça, ça change tout. Bon, après tout cela, on va dire, bon, on a tous des progrès à faire. Eh bien, oui, c'est ça, mais bon, la question, c'est de progresser. Hein. Et lui, il nous prendra là où on est. Hein. On est en voie de transformation. C'est un peu un exemple, vous avez déjà entendu parler de la forêt pétrifiée. Hein, aux États-Unis, il y a ces arbres qui sont des souches d'arbres, et puis avec le vent et tout ça, au fur et à mesure que la matière organique se décomposait, était remplacée par des grains de sable, éventuellement, tout l'arbre est là, mais c'est de la pierre. Ça s'est fait avec le temps, avec le vent et tout ça, puis tout ce qui est matière organique, qui est qui peut se décomposer, a été remplacé par de la pierre qui dure. Et donc, on peut aller là-bas, je les ai vus avec mes propres yeux, ils sont là, on peut regarder, on s'approche, on peut même compter l'âge de l'arbre, tellement c'est bien fait. Eh bien, en fait, c'est ça qui doit se passer dans notre vie chrétienne. C'est que l'ancienne nature, ça se remplace, cellule par cellule, et c'est remplacé par Jésus-Christ. Donc, je garde mon apparence, même si ce n'est pas extraordinaire. Je garde mon apparence, je garde ma personnalité, parce que c'est ce que j'ai reçu à la naissance. Mais ce n'est plus la même nature, ce n'est plus de la matière organique, c'est la pierre, quelque chose qui demeure éternellement. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et prions les uns pour les autres, et soyons patients les uns avec les autres, comme le Seigneur est patient avec nous. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur encore, ou si vous avez du doute, eh bien, écoutez, c'est à la croix que ça se règle. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, ben, je suis prêt à vous accompagner, mais c'est à Christ qu'il faut aller, hein, personne d'autre. Je vais vous accorder quelques minutes de silence et vous pourrez dire au Seigneur ce que vous avez envie de lui dire. Et ensuite, je prierai.